Mika Podcast.
Ésotérisme, paranormal et mystère.
Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un univers fascinant, celui des grimoires secrets, des savoirs anciens sur les plantes.
Oui, un monde qui sent un peu le soufre et la forêt latin.
Exactement. Et on va le faire en feuilletant le petit grimoire de sorcière, potions et plantes magiques d'Erika Laïs. Elle a l'air vraiment passionnée par les plantes, avec une sacrée expérience.
Oui, son livre, c'est un peu une invitation à regarder autrement ces plantes dites de sorcières. Il parle de leur histoire, de leurs usages médicinaux, magiques et même de comment les trouver.
Ou les cultiver, j'ai vu ça aussi.
Tout à fait. L'idée, c'est de dénicher un peu les pépites de ce grimoire moderne. Mais attention, et l'auteur insiste beaucoup là-dessus.
Ah oui, qu'est-ce qu'elle dit ?
Elle met en garde, quoi. Identifier une plante sauvage, l'utiliser, c'est pas anodin. Faut être hyper prudent. On touche à un savoir ancestral, mais c'est pas sans risque. Il y a une histoire complexe derrière tout ça.
D'accord. Prudence, donc. Mais alors, c'est quoi exactement une plante de sorcière pour elle ?
Souvent, ce sont un peu les mal-aimées, tu vois. Celles qu'on regarde au haut, qu'on juge inutiles, voire toxiques.
Comme la morelle noire, la jusquiame. Des noms qui font un peu peur, déjà.
Voilà. L'auteur raconte même, c'est assez joli, que certaines sont apparues toutes seules dans son jardin. Presque une invitation, quoi.
Une invitation à les redécouvrir. Et ces plantes, on les retrouve dans ce qu'elle appelle des « jardins des sortilèges », inspirés du Moyen-Âge.
C'est ça. Et puis les noms, t'as parlé de la morelle, mais il y a aussi « bourreau des arbres »,« oreille de souris »,« herbe aux sommes ». Ça met direct dans l'ambiance, hein.
Carrément. Et ça m'amène à une idée que le livre explore. Le double visage de tout ça. Les charmes, les plantes. C'est pas tout blanc ou tout noir.
Ah non, loin de là. C'est même un point central. L'auteur distingue bien les usages. D'un côté, t'as les charmes pour guérir, protéger, favoriser l'amour. Le côté positif, on va dire.
Et de l'autre ?
Bah, le côté plus sombre. Nuire, attiser la jalousie, manipuler. Et elle cite Albert le Grand, un savant du Moyen-Âge, qui disait en gros que la science en elle-même, elle est neutre. C'est l'intention qui fait qu'elle devienne bonne ou mauvaise.
C'est une idée forte. Et ça s'applique bien aux plantes, j'imagine. Le livre parle du pavot, de la mandragore.
Exactement. Des plantes super puissantes, narcotiques. Alors oui, elles ont pu servir pour endormir la douleur. Une sorte d'anesthésie avant l'heure.
Ouais, pas que.
Bah non. Elles peuvent aussi provoquer des hallucinations très fortes. Et c'est là qu'on frôle les légendes, les histoires de voyages extracorporels.
Les fameux onguents dont s'enduisaient les sorcières pour voler sur leur balai, ça viendrait de là.
C'est une des théories, oui. Cette puissance, cette ambiguïté, ça a clairement joué un rôle dans leur diabolisation au fil du temps.
Logique. Et le livre fait le lien avec les périodes sombres, j'imagine, les procès en sorcellerie.
Tout à fait. Il évoque comment ce savoir, souvent détenu par des femmes, des sages-femmes par exemple, est devenu suspect. Leur connaissance empirique des plantes a été vue comme une menace.
Et l'affaire des poisons sous Louis XIV, ça entre là-dedans aussi.
Oui, c'est un autre exemple marquant de l'utilisation détournée et criminelle de ces savoirs. Et puis, après ça, le siècle des Lumières, en voulant combattre la superstition, a parfois un peu tout mis dans le même sac.
Rejetant des savoirs utiles avec le folklore.
Un peu ça, oui. En reléguant tout ça à la superstition, on a peut-être perdu une partie de l'observation réelle, de la connaissance botanique qui se cachait derrière les croyances.
C'est fou comme histoire. Mais revenons à aujourd'hui. Si on a envie, comme l'auteur, d'aller voir ces plantes de plus près, juste pour observer, elle dit que c'est pas facile de trouver les graines.
C'est souvent le cas, oui. Du coup, la recherche se fait plutôt sur le terrain, dans la nature.
Mais là, attention. On revient à la prudence.
Exactement. L'auteur insiste énormément sur l'éthique et la légalité. Il faut absolument vérifier le statut de protection des plantes. Certaines sont protégées au niveau national, d'autres régionalement.
Il peut y avoir des interdictions de cueillette.
Oui, totale, partielle ou limitée dans le temps. Faut se renseigner. Et puis, respecter les lieux, bien sûr. La propriété privée, c'est évident. Mais aussi ne pas piller une zone.
Ne pas épuiser la ressource.
Voilà, prélever juste ce qu'il faut sans abîmer le reste. Et si on prend une racine, essayer de replanter tout de suite. Le livre donne des conseils pratiques. Le matériel, comment conserver les racines au frais. C'est vraiment une approche respectueuse.
C'est bien de le souligner. Elle donne des exemples concrets de plantes qu'on pourrait croiser.
Oui, oui, elle fait des focus. Par exemple, sur deux plantes qui sentent l'ail. L'ail d'ours et l'herbe à l'ail. D'ailleurs, la famille de l'ail, les Aliacées, a une charge symbolique énorme depuis l'Antiquité.
Ah oui, Contre les vampires, ça je sais.
Entre autres, mais aussi symbole de force, de courage, utilisé pour les présages. L'ail d'ours, Allium ursinum, tu le connais peut-être, ces grandes colonies de feuilles vertes au printemps, dans les bois humides et ombragés.
Oui, je vois très bien. Ça sent fort l'ail quand on marche dedans.
C'est ça. Facile à reconnaître avec ses fleurs blanches en étoile. Le livre dit qu'on lui attribuait le pouvoir d'absorber le mal. Facile à récolter, mais attention aux confusions avant qu'il ne fleurisse.
Avec quoi, par exemple ?
Le muguet, le colchique, qui sont très toxiques. Prudence encore.
D'accord. Et l'autre, l'herbe à l'ail. C'est pareil ?
Pas tout à fait. Aliaria petiolata. Elle sent l'ail aussi, mais elle n'est pas de la même famille. C'est une brassicacée. Comme le chou. Elle est plus grande, les fleurs sont différentes. L'auteur dit qu'elle est plus capricieuse à transplanter. Moins facile à faire reprendre.
Fascinant de voir toute cette histoire et ces précautions autour de plantes qui paraissent parfois si banales. Finalement, ce petit grimoire, c'est une invitation à ouvrir les yeux sur ce qui pousse autour de nous, même ce qui fait un peu peur ou qu'on ignore.
Exactement. Ça invite à regarder différemment. Et ça nous laisse peut-être avec une question, pour finir.
Je t'écoute.
Toute cette connaissance ancestrale, ce mélange de botanique, d'usage traditionnel, de folklore, de danger aussi, quelle place ça peut avoir aujourd'hui dans notre rapport à la nature, au bien-être ?
Comment on fait le tri entre le folklore et l'utile, le sûr ?
Voilà. Comment naviguer entre cette fascination pour le passé, pour la magie, et une approche moderne, informée, respectueuse et sécurisée du végétal ? C'est peut-être ça le vrai défi, le vrai charme à opérer.
Mika Podcast. Ésotérisme, paranormal et mystère.